auparavant, il faut qu'on fasse un bilan rapide des réformes qui ont déjà été entreprises, parce qu'on ne peut comprendre l'esprit de celles qui s'annoncent qu'après avoir rappelé rapidement ce qui a été mis en œuvre depuis 1993, date de la première grande réforme qui a été mise en œuvre par le gouvernement qui était à l'époque dirigé par M. Balladur. Au mois de juillet de 1993, Balladur fait adopter quatre mesures concernant pour l'instant uniquement les salariés du secteur privé. Première mesure, passage, vous en souvenez, de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation. Deuxième mesure, modification de la manière dont on calcule la retraite qui auparavant avait pour base les salaires perçus pendant les 10 meilleures années de la vie professionnelle du futur retraité, passage aux 25 meilleures années. Alors, quelle conséquence cela a-t-il ? Cela a pour conséquence, dans une période où il y a eu beaucoup de chômage, beaucoup de précarité, des parcours professionnels un peu chaotiques, en tout cas parsemés de trous, ça a pour conséquence d'affaiblir la pension qui sera versée lorsqu'on prend en compte les 25 années au lieu des 10 meilleures. Ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure modifie le mode d'indexation des pensions, qui ne sont plus reliées aux salaires, mais ne sont plus indexées sur les salaires, mais sur les prix. Quelle est la différence ? Eh bien, ça veut dire que jamais, plus jamais, pour l'éternité, si on ne met pas en cause ces mesures-là, le pouvoir d'achat des pensionnés, des retraités, n'augmentera puisque vous ne leur faites rattraper que l'érosion due à la hausse des prix. Donc, fini l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors certes, on pourrait se dire, bon, les salaires non plus ne voient pas leur pouvoir d'achat augmenter terriblement, surtout dans la période que nous venons de traverser. Il n'empêche, il y a tout de même, d'année en année, une modeste augmentation du pouvoir d'achat, qui ne suit pas, on va le voir dans un instant, qui ne suit pas l'augmentation de la richesse, c'est bien là d'où vient le problème essentiel d'ailleurs, mais qui augmente un tout petit peu quand même. Ce qui ne sera plus le cas avec cette mesure à partir de 1993 d'indexation des pensions sur les prix. Et enfin, la quatrième mesure, qui est la cerise sur ce gâteau empoisonné, c'est une décote au départ de 10% par année de cotisation manquante. Donc, de toute façon, on passe de 37 ans et demi à 40. Si vous partez à 39, ça vous fait plus 10%. Cette décote, je vais vous le dire dans un instant, va être réduite ensuite pour converger vers celle des fonctionnaires qui vont être, dont la retraite va être réformée quelques années après. Donc voilà ce qui est en œuvre pour les salariés du privé depuis la réforme Balladur de 1993. Vous vous souvenez de l'épisode raté du gouvernement Juppé en 1995 qui avait tenté d'aller plus loin dans cette réforme, mais il y a eu un tel mouvement social en novembre-décembre 1995, qu'il a dû remiser sa réforme. Donc, ce qui peut nous faire dire maintenant que on ne sait pas d'avance si on a perdu. Hein. Il faut mener la bataille et qu'on peut aussi parfois la gagner. Bon. Donc, rappelons-nous donc novembre-décembre 1995. Bon, Juppé rate son coup, mais lors de l'entrée en fonction du gouvernement de M. Raffarin, lors du septennat de Chirac, second septennat de Chirac, vous vous souvenez, Raffarin, Premier ministre, et Fillon, notre actuel Fillon, Premier ministre, qui était à l'époque ministre du Travail, entreprennent donc de réformer les retraites des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires d'État, des collectivités territoriales ou de la fonction hospitalière. Donc la nouvelle réforme, dont vous vous souvenez aussi des principales mesures, passage à 40 ans de cotisation également, décote pour chaque année de cotisation manquante, au départ de 3%, évoluant vers 5%, pendant que celle du privé était ramenée aussi à 5%. Et puis, ce que prévoit la loi de 2003, c'est que le passage à 40 ans de cotisation ne s'arrête pas là, puisqu'il est prévu qu'au fur et à mesure que l'espérance de vie s'allonge, la durée de cotisation doit s'allonger, et nous sommes en train de passer, ne restons pas à 40, mais nous sommes déjà à 40 et demi pour aller vers 41 en 2012. Et il est prévu d'attribuer les deux tiers de l'augmentation de l'espérance de vie au travail et le tiers restant à la retraite. Donc vous voyez comment se fait le partage, vous vivez, mettons, un an de plus, et bien pendant les deux tiers de cette année, vous travaillerez en plus, et pendant l'autre tiers, ben, si vous avez encore pas trop de rhumatisme, vous pourrez partir à la retraite. Alors bien sûr, ces réformes qui tentent à faire travailler les gens plus longtemps, hein, on peut le résumer comme ça, ces réformes mettent sous la table les contradictions fondamentales qui figurent dans ces mesures. À savoir que si vous voulez faire travailler les gens plus longtemps pendant qu'aucun emploi supplémentaire n'est créé, eh bien ça veut dire que vous maintenez, j'allais dire au mieux, c'est même pas au mieux, vous maintenez en tout cas les seniors au travail et vous retardez un peu plus l'entrée dans la vie active des jeunes. Ce qui fait que non seulement vous retardez leur entrée dans la vie active, mais comme ils ont davantage d'années de cotisation à remplir, eh bien ça repousse encore plus loin leur possible départ à la retraite plus tard. Donc vous voyez la contradiction qu'il y a à vouloir faire travailler les gens plus longtemps tant qu'il n'y a pas d'emploi supplémentaire. Si tant est que les faire travailler, de toute façon, est une bonne chose. Mais même si on considérait que c'était une bonne chose, s'il n'y a pas d'emploi supplémentaire, vous voyez bien que l'emploi des uns se fait au détriment de celui des autres. Et deuxième contradiction, alors là qui concerne surtout au départ les salariés du privé, vous connaissez la pratique des entreprises, notamment des grandes entreprises, qui se débarrassent de leurs salariés âgés dès qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans. Bon, ben c'est eux qui sont les premiers licenciés ou qui partent dans les charrettes des plans sociaux en premier lieu. Ce qui fait que le deuxième mensonge dans le discours médiatique que l'on rencontre consiste à confondre l'âge où on peut faire valoir son droit à la retraite après tant d'années au travail, donc maintenant 40 ans et demi, et puis l'âge auquel on est contraint de quitter l'emploi à cause des politiques de pratiquées par les entreprises qui se débarrassent de leurs salariés. Et il y a un décalage très important. L'âge moyen actuel auquel les salariés peuvent faire valoir leur droit à la retraite à taux plein, c'est-à-dire au bout de 40 ans et demi, pour ceux qui sont nés, par exemple, en 1950, puisque c'est à eux que ça s'applique, c'est entre 61 et 62 ans. Mais l'âge moyen auquel les salariés quittent de gré ou de force leur emploi, c'est 2 ans de moins, entre 58 et 59 ans. Et donc, vous vous rendez compte, la perte nette pour les salariés qui sont ainsi contraints de quitter leur emploi sans qu'ils aient pu satisfaire aux nouvelles obligations de durée de cotisation, et en même temps l'entourloupe idéologique qui consiste à confondre ces deux âges dont je viens de vous parler. Bon. Alors, donc voilà ce qui s'est fait en 1993 et en 2003. Résultat, et ça sont les chiffres officiels, hein, c'est pas Attac qui les a inventés, ce sont les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, cet organisme officiel qui travaille pour le gouvernement pour lui produire des rapports réguliers, bon, a chiffré entre 15 et 20% la baisse moyenne des pensions depuis que ces réformes commencent à tourner maintenant à plein régime. Donc, voilà le bilan.